Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Bonjour à tous et bienvenue dans le FC Stream Team, je suis Martin Mosnier, journaliste à Eurosport. En ma compagnie aujourd'hui, demain, après-demain, hier et avant-hier, Maxime Dupuis, comment ça va ?
Ça va Martin, et toi ?
Bah écoute, ça va super, on va reparler de France-Tunisie, on va se projeter sur France-Pologne, il est déjà en train de se marier, je sais pas pourquoi.
Non, je me disais que c'était la pire intro ever. Non mais il y a pas, de toute façon pendant la Coupe du Monde on ne fait pas d'intro parce qu'on n'a pas le temps de les travailler comme on vous l'a déjà dit, ça prend à peu près 7 heures de travail ouais. Et on ne pourrait pas dormir.
Voilà. C'est surtout l'armée d'auteurs qu'on ne peut pas payer.
L'armée d'auteurs qu'on ne peut pas payer puisque comme c'est des émissions au quotidien, c'est très compliqué à faire. Non, je suis quand même content de cette journée parce que je l'ai très mal commencé en pensant que j'avais perdu tous mes papiers.
C'est vrai.
Et finalement ils étaient sous mon clavier.
Voilà, Maxime le kleptomane, non c'est pas de la kleptomanie, c'est de la démence. C'est la démence en fait.
Mais j'avais un doute parce que comme j'avais ramené Martin chez lui hier soir, je me suis dit si ça se trouve il m'a piqué mes affaires dans la bagnole.
Non mais j'en suis pas là quand même Maxime. Je sais que ton compte en banque a assez peu d'équivalent, j'allais dire à Eurosport mais même tout court. Mais moi l'argent que je dépense je gagne à la sueur de mon front. Contrairement à certains dans cette salle. On peut y aller, Maxime.
On est trois dans la salle. Hein.
On est trois, mais je pensais surtout à toi. Le sommaire du jour,
Maxime. Tu vas nous le donner.
Le sommaire
Allez,
du jour.
Allez, j'y vais. Le sommaire du jour. Premier sujet, on parlera. On ne pensait pas parler de ça, mais finalement, on va parler de la réclamation portée par l'équipe de France auprès de la FIFA après le but refusé à Antoine Griezmann. On va se poser la question suivante. Est-ce que c'est bien décent ? Est-ce que c'est bien raisonnable ? Et pourquoi une telle réclamation ? Ensuite, on va conclure le premier tour en faisant nos coups de cœur, nos coups de gueule de l'équipe de France. On va en parler pendant quelques minutes, on en a un chacun. Et puis enfin, on parlera évidemment du prochain adversaire des Bleus, qui est la Pologne. Et ce n'est pas que la Pologne nous rappelle la Suisse, mais il y a quand même dans cette confrontation une différence de niveau sur le papier. Et on va se poser la question évidemment en espérant que les Français ne tombent pas dans le piège de se voir un peu trop beau, un peu trop fort avant de jouer la Pologne dimanche à 16h.
Donc l'équipe de France a porté réclamation après le but refusé, après intervention de la VAR à Antoine Griezmann. On va faire un rapide rappel des faits. Antoine Griezmann marque, la Tunisie engage, le match se termine sur l'engagement de la Tunisie. L'arbitre fait appel à la VAR et annule le but d'Antoine Griezmann. L'arbitre n'avait pas le droit de faire ça, puisqu'une fois que le jeu a repris, il ne peut pas demander l'intervention du VAR. Et vous le voyez en Ligue 1, vous le voyez d'ailleurs dans tous les championnats. Une fois que le jeu reprend, de toute façon, c'est terminé. On ne peut plus revenir sur un pénalty en jeu, etc. Donc là, il y a une erreur. Du coup, la FFF a porté réclamation. Le discours officiel, c'est de dire « Non, mais on ne veut pas être pris au dépourvu si toutefois ça nous arrive en huitième face à la Pologne. » Bien sûr, mon œil, rien du tout. Maxime, est-ce que c'est un peu indécent cette réclamation de l'équipe de France parce que la France ait perdu ou ait fait match nul, ça ne change strictement rien à la hiérarchie du groupe et donc à la suite de la compétition.
Alors, il y a deux erreurs hier. Pour moi, il y a évidemment l'erreur de l'appel au VAR après l'engagement, parce que évidemment, quand c'est reparti, on ne peut plus, ça coupe un peu la possibilité de faire appel à la vidéo, et aussi tout simplement parce que, à mes yeux, Griezmann n'est absolument pas hors jeu. Il est en position passive, assez loin du ballon, il ne fait pas action de jeu, et normalement, selon la loi 11 du jeu, ça ne se siffle pas. Le ballon lui est retombé dans les jambes, il a frappé, il a marqué. D'ailleurs, c'est ce qu'il explique à l'arbitre à la fin, M. Conger, en lui disant, en gros, mais moi, je ne jouais pas le ballon. En gros, il est revenu sur moi, j'ai tapé, j'ai marqué. Donc voilà, il y a deux erreurs pour moi. Est-ce que la France devait faire appel ? Je pense que c'est bien de marquer le coup, de le dire, de dire, attention, on va peut-être le faire. Parce que à chaud, on peut être énervé. Didier Deschamps a perdu, il faut le savoir, mercredi soir, son premier match de poule de sa vie de sélectionneur. Il n'a peut-être pas envie de le perdre parce qu'on sait que le résultat compte pour lui. Mais au fond, S'il l'a perdu, c'est aussi un peu de sa faute et c'est pas bien grave. Voilà. Ça change rien en groupe, ça change rien. Je pense que Griezmann, son 41e ou son 42e but en équipe de France, ça change pas sa vie. C'est pas un homme de chiffres. Voilà. Donc c'est vrai que je pense que l'équipe de France avait raison de laisser planer la menace hier soir en disant on va peut-être le faire. Alors, je suis d'accord avec toi, la justification. C'est pour en gros on fait ça, on fait pas ça pour nous, on fait ça pour la suite,
pour le
non,
football
voilà. Ouais voilà, c'est un peu ça là le grand pénalisé. Je pense que j'aurais peut-être l'air malin une fois que ce sera jugé, je pense que la requête a été envoyée, ça ne changera rien, la Tunisie restera sur une victoire. Celui qui va prendre cher à mon avis, c'est monsieur l'arbitre qui a des chances de ne pas revenir parce qu'il a fait une erreur manifeste,
et les gens du VAR aussi quand même,
et hein. Les gens du VAR, parce qu'il faut dire, je pense que ce n'est pas lui qui appelle le VAR, lui il a fini, je pense que c'est dans le camion où on lui dit écoute Coco, il y a peut-être une erreur, il faut que tu reviennes voir ça, donc il n'y a rien qui va sur cette histoire. Voilà, donc je pense que l'équipe de France aurait peut-être dû aujourd'hui, parce qu'il faut savoir que la plainte a été envoyée, la réclamation pardon, a été envoyée cet après-midi. Donc il a fallu dire, bon, c'est terminé, on laisse couler.
Oui, je ne sais pas ce que cherche l'équipe de France. Qu'est-ce qu'elle veut ? Un match nul pour les stats, donc pour ne pas avoir effectivement perdu un match. Au fond, c'est une péripétie, c'est un détail, ce qui s'est passé hier dans l'esprit de Didier Deschamps. Et en fait, c'est paradoxal parce qu'il nous dit en conférence de presse, on ne peut pas courir plusieurs lèvres à la fois. Voilà, il s'est passé ce qui s'est passé, c'est pas bien grave. Et derrière, il porte réclamation. Après qu'il ait un discours médiatique et qu'il dise là, et qu'il soit à la limite offensif, je comprends pas ce qui s'est passé, on nous doit des explications, etc. Pourquoi pas poser une réclamation ? Il sait qu'en plus, elle a assez peu de chances d'aboutir. Parce qu'il faudrait peut-être, finalement, si on va au bout du bout de la logique, la FIFA dit que effectivement le but de Griezmann était valable. Elle accorde ce but. 24 heures, 48 heures après, peu importe. Et ben pourquoi pas, il faudrait faire revenir les joueurs sur le terrain,
mais complètement.
Et jouer les dernières secondes parce qu'il y aurait du temps additionnel sans doute avec célébration, etc. Donc allons-y, rejouons. Non mais ça c'est impossible. Je pense qu'il y a des Tunisiens qui sont déjà rentrés chez eux parce qu'ils sont éliminés, je le rappelle. Enfin je veux dire, à quoi bon ?
Non mais la victime ça va être l'arbitre.
Voilà, la victime ça sera l'arbitre. Et ce qui est normal,
Il
est sanctionné,
erreur,
c'est normal.
Je pense aussi, ça me fait penser un peu aussi des fois les discours en championnat où après un match, un entraîneur va dire bon, encore une fois, on s'est fait avoir, etc. Je pense aussi que c'est peut-être une manière, c'est pas perdu, c'est de dire, vous voyez les gars, il y a une erreur contre nous déjà, bon, ce serait bien de ne pas en faire deux, voilà. Je pense que c'est juste un petit truc psychologique, ça va faire un peu de bruit, ça va faire un peu parler, donc je pense que les arbitres sont évidemment au courant de ce qui s'est passé, et peut-être que le prochain, inconsciemment, voilà. Je pense que là-dessus, c'est peut-être pas bête, c'est pas perdu, mais le côté, j'allais dire judiciaire de l'affaire, non, mais administratif et tout ça, ouais, c'était pas la peine, ça change rien. Encore une fois, il passe de la première à la deuxième place, là je ne dis pas. Là, ça ne change rien.
Et il y a autre chose, alors peut-être à un degré moins, vous allez dire peut-être que je surinterprète, etc. Mais souvenez-vous de France-Danemark. Ça se passe mal, Didier Deschamps est sous le feu des critiques. Et il va allumer un feu en disant, un contre-feu en disant, oui, on nous a espionnés, on a donné l'équipe à l'adversaire. Bon, il est parti dans ce truc-là, qui n'avait absolument rien à voir. Mais voilà, il fallait détourner l'attention. Peut-être que ça participe aussi à ça. Et aussi ce qu'il a fait avec Pavard hier, qui n'est pas très clair, ce truc sur l'arbitrage, voilà, peut-être que ça participe aussi à ce qu'on parle un peu moins de ce qui s'est passé sur le terrain, parce que c'était franchement moche, que Didier Deschamps connaît sa part de responsabilité là-dedans, et que quand même il est très attentif au discours médiatique, et finalement cette affaire d'arbitrage occupe le terrain médiatique. La preuve, hier c'était en une de plein de sites d'information. Nous c'était en deux, mais bon, peu importe, ça occupe l'espace médiatique, ça permet de parler un petit peu moins de ce qui s'est passé sur le terrain. Ça peut aussi être une tactique.
Ouais, pour Pavard, je suis pas sûr, parce que là, ça serait vraiment dur, mais en tout cas, je pense que ça me paraît plausible d'ouvrir un contre-feu. On va parler de ça. Finalement, ce match-là, on l'a pas vraiment perdu, parce qu'après tout, on avait égalisé. Et c'est vrai que même moi,
quand après, le fond de l'affaire, quand même, il y a une erreur manifeste. Je pense que si ça se jouait sur un huitième de finale, on aurait un tout autre discours.
Ouais. On aura tout le discours, mais je pense que la finalité serait la même. C'est-à-dire que c'est des compétitions de toute façon qui sont tellement resserrées qu'une erreur est une erreur et qu'on ne revient pas dessus. Parce que dans l'absolu, tu reviens sur la main de Maradona, tu reviens sur plein de trucs, tu n'as pas le temps de revenir. Et encore une fois, celle-là, elle ne porte vraiment pas préjudice. Finalement, il y a presque une défaite. Alors, c'est un grand mot, mais une défaite morale de l'équipe de France l'année dernière, d'avoir perdu hier, d'avoir perdu ce match tout simplement aussi. Bon, honnêtement, ils égalisent à la fin, c'est super, super, super bien payé. Le but était valable, donc normalement, ça doit faire un partout. Mais bon, voilà, il n'y a pas de drame, c'est un petit coup de pied aux fesses. Et puis voilà, je pense qu'encore une fois, hier soir, je comprenais bien la menace portée, dire on va porter réclamation. C'est pas juste. Je n'étais pas certain qu'il l'enverra aujourd'hui. Ils l'ont fait, donc on verra, mais je pense que ça ne mènera à rien du tout.
Allez, on va passer au deuxième sujet. Le premier tour de l'équipe de France s'est achevé par 2 victoires, donc 1 défaite face à la Tunisie. Et avec Maxime, on a chacun choisi un coup de cœur et un coup de gueule sur ces 3 premiers matchs de l'équipe de France. Maxime, honneur à l'aîné.
Je vais donc commencer par mon coup de cœur. Et mon coup de cœur s'appelle Adrien Rabiot. Adrien Rabiot qui était quand même un gigantesque point d'interrogation, qui a un peu plus de 4 ans été rayé des cartes de l'équipe de France, qui est revenu après un... C'est même pas un grand pardon, on ne sait pas vraiment comment ça s'est passé d'ailleurs, mais Didier Deschamps l'a rappelé. Le joueur, jusque-là, avait montré des choses parfois intéressantes, mais c'était parfois intéressant, parfois moins intéressant. Souvenez-vous de l'Euro l'an dernier, où très bonne entrée en gamme, et derrière, pas grand-chose. Et bien là, je trouve que, en l'absence des tauliers Pogba et Kanté, il fait le job et mieux que ça. Il est le Rabiot ou pas loin, que j'ai toujours attendu de voir, parce que c'est un type qui est bourré de talent. Ça dégouline, ça se voit à 10 km, mais il y a cette forme d'indolence qui n'est pas toujours bien passée. Et là, j'ai l'impression qu'on est quand même sur un joueur, c'est pas devenu un guerrier du jour au lendemain, mais c'est devenu le milieu de terrain qu'on attendait, si bien qu'aujourd'hui, au milieu de terrain, sauf si on compte Griezmann en milieu de terrain, c'est aujourd'hui le meilleur. Et paradoxalement, j'ai beaucoup aimé aussi son entrée en jeu hier. Voilà. Tout simplement, contre la Tunisie, l'équipe de France est à la ramasse, il vient. Et il fait partie de ces types qui vous changent le visage de l'équipe. Et franchement, on m'aurait dit ça il y a quelques années, je n'aurais pas été certain. Maintenant, j'attends encore un peu parce que c'est maintenant qu'on va le voir à l'œuvre. Évidemment, il ne jouera pas arrière-gauche, donc ça sera déjà bien de le voir dans un match à élimination directe à son poste. Mais en tout cas, j'avoue que je suis très satisfait et plutôt heureux de ce qu'il réussit avec l'équipe de France actuellement.
Moi, mon coup de cœur s'appelle Dayo Upamecano. Pourquoi ? Parce que c'était le plus gros point d'interrogation de cette équipe de France. Parce que même on se disait que c'était un pari beaucoup trop risqué de le lancer face à l'Australie. Je rappelle juste qu'il restait sur 7 sélections, dont 5 qui étaient mauvaises, voire pour certaines cataclysmiques, dont la dernière au Danemark en septembre. Donc, ce n'est pas si vieux que ça. Que jusqu'ici, son vécu en équipe de France ressemblait à un calvaire, que c'était beaucoup trop dur pour lui, qu'on sentait qu'il était fébrile sur chaque touche de balle. Et puis là, la révélation, au meilleur des moments, en Coupe du Monde, quand on a besoin de lui, puisque ni Kimpembe ni Lucas Hernandez ne sont là pour pallier un éventuel problème, c'est la révélation Upamecano. Moi, c'est celui qui m'estomaque le plus depuis le début de cette compétition chez les Français, parce que non seulement il fait le taf, mais plus que ça, il est très bon. Son match face au Danemark, c'est pas loin d'être le meilleur français. Bon, si on enlève les deux devant Griezmann et Mbappé, mais même, il fait des différences incroyables dans la première relance. Il apporte des solutions à cette équipe de France qui se cherchait un premier relanceur, déjà avec Pogba, puisque Varane était un peu... Enfin, c'était un peu compliqué pour lui la première relance depuis des années. Pogba n'est pas là, donc là, on s'était dit, ça va vraiment être compliqué. Et lui, il endosse ce costume-là, alors même qu'on ne savait même pas si défensivement, ça allait le faire. Donc, franchement, chapeau à lui. Et surtout, il enlève quand même une épine du pied à Didier Deschamps assez énorme. Donc, c'est gagnant, 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 gagnant avec Dayot.
Je te laisse enchaîner sur ton coup de gueule, puisque tu es bien chaud.
Oui, je suis bien chaud. Mon coup de gueule, ça restera jusqu'à la fin de la compétition. Le péché originel de cette équipe de France et ce qui pourrait mener à sa chute, selon moi, c'est la construction de cette liste que je ne saisis toujours pas. Je me répète, vous allez dire que je radote et vous aurez raison, mais le match face à la Tunisie,
tu as des convictions.
M'a donné raison, j'ai des convictions. 9 défenseurs, 8 défenseurs centraux dans la liste initiale. 3 gauchers, Kimpembe se blesse, on n'appelle pas un gaucher, on appelle un droitier, dit Sassi. Résultat, plus de Lucas Hernandez, avec qui tu joues à gauche, avec Eduardo Camavinga. À droite, un Pavard dont on ne sait plus trop s'il veut jouer à ce poste-là. Du coup, tu te retrouves avec un Koundé et maintenant avec un dit Sassi. Très peu de joueurs de couloir alors que tu retournes sur un 4-3-3. Quand tu fais jouer les seconds couteaux, finalement, tu n'as que Coman pour occuper. Songez qu'hier, sur le 11 titulaire, il n'y a qu'un joueur de couloir. Un seul. Je pense que c'est du jamais vu. Bref, on est sur une liste faite briquet de broc, un peu bricolée. Le 11 tient la route. Donc jusqu'ici, il n'y a pas de souci à se faire. Mais à partir du moment, je pense que ça arrivera, parce que ça arrive quasiment toujours, il y aura un pet. On pourra, et je pense que Didier Deschamps pourra se mordre les doigts d'avoir construit une liste aussi déséquilibrée.
Alors c'est marrant, tu me fais la transition avec les pets, comme tu dis. Moi, j'ai envie de parler de la gestion des blessés dans cette liste, la gestion du cas Karim Benzema et la gestion du cas Raphaël Varane, qui sont deux cas qui se ressemblent avec des finalités différentes, mais qui posent des questions. Quand il a annoncé le fonctionnement de sa liste et comment il la ferait, Didier Deschamps a dit « Je n'emmènerai que des joueurs qui sont prêts à jouer le premier match. »
Faux.
Or, ce qu'on a vu, c'est que Benzema, finalement, on ne saura pas parce que la blessure qu'il se donne à la cuisse n'est pas la même qu'il avait. Mais bon, on peut avoir des doutes puisque le jeudi, l'arrivée au Qatar, il devait s'entraîner avec le groupe, il n'était pas prêt. Il aurait sûrement été juste, même s'il avait réintégré l'entraînement collectif. Raphaël Varane, aujourd'hui, et surtout, je termine sur Benzema, je pense que ce qui a découlé derrière les mini-polémiques d'ambiance, etc., mais c'est aussi ça, c'est aussi l'incertitude qu'il y a eu autour de lui. Et je trouve que c'est dommage que ça se soit, non pas terminé ainsi, enfin du moins la Coupe du Monde de Benzema, avec tout ce qui s'est ensuivi au niveau de la supposée différence d'ambiance. Quant à Raphaël Varane, la question est très prégnante puisqu'on arrive à un huitième de finale et on a des doutes sur Raphaël Varane. Voilà. Parce que Didier Deschamps a expliqué le lundi, veille de France-Australie, premier match, que Raphaël Varane était apte et disponible. Or, le mardi, il n'a pas joué. Donc s'il n'a pas joué, c'est qu'il n'était pas apte et disponible. Donc il a emmené un joueur qui n'était pas prêt à jouer. Alors on sait qu'il avait des doutes. Peut-être que s'il avait su avant la Coupe du Monde que Upamecano et Konaté seraient à ce niveau-là, peut-être n'aurait-il pas emmené Varane. Il l'a emmené, et ce qui fait qu'aujourd'hui, on l'a vu contre le Danemark plutôt bon, on l'a vu contre la Tunisie plutôt mauvais, donc on arrive à un huitième de finale où on a une grande question autour du cas Varane qui ne devrait pas avoir lieu. Là, c'est quand même un moment de la compétition où votre charnière doit être assurée. Alors je pense que la tête de Deschamps, hormis pépin physique, elle est assurée, c'est Varane et Upamecano. Mais on peut avoir des doutes, et surtout les doutes, pour faire le lien avec ce que tu disais sur Upamecano, on n'a pas des doutes sur la personne qu'on imaginait, et c'est assez dommageable pour le coup.
Est-ce que tu avais peut-être d'autres petits coups de gueule, petits coups de cœur?
La température au Qatar, peut-être, qui est plutôt clémente.
Ouais, qui est plutôt clémente, c'est
un
plutôt
peu
pas
frais
mal.
Quand même.
Un peu frais, c'est vrai. On aurait pu faire plein d'autres coups de cœur.
Évidemment, j'imagine que si
t'as nous parlé de Griezmann.
Ouais, si vous nous écoutez,
pour changer un petit peu.
Je pense que 89% des gens qui nous écoutent régulièrement se sont dit, évidemment, ils vont parler de Griezmann. Bah oui, on aurait pu parler de Griezmann, mais c'était trop évident. Et c'était une évidence. Oui, Griezmann fait un très bon tournoi. Et ça, c'est à mettre au
Mbappé, non?
Mais si, mais c'est à mettre. Attends, c'est à mettre au crédit de Didier Deschamps que Antoine Griezmann fait un excellent tournoi, comme Mbappé. C'est bon, Mbappé, c'est plus à mettre à son crédit parce que je pense qu'il avait moins besoin d'être positionné. Le seul chose qu'il fallait sûrement lui dire, et que Deschamps lui a dit, c'était laisse les coups de pied arrêter. Il le fait, ça se passe plutôt bien. Il a 3 buts. On espère qu'il finira à 6, 7, 8. Ça sera plutôt bonne nouvelle.
14, Maxime.
Est-ce que à 8 buts, on est champion du monde? Faudrait vraiment un grand drame. Le dernier qui a mis 8 buts, c'est Ronaldo et c'est champion du monde.
Après, s'il en met 4 contre la Pologne, ça fait 7.
C'est vrai.
Donc, on est à l'abri de rien avec Kylian Mbappé. On termine cette émission, Maxime ?
On termine cette émission et on va parler justement du 8e de finale face à la Pologne, parce que Martin ne se souvenait plus du sujet, c'est
bien
sûr.
Si.
Mais c'est une fois sur deux, voilà, c'est comme ça. On a parfois du mal à se rappeler des
choses. Oui, mais
des choses.
Expliquer aux
on
gens,
est dans un tourbillon.
Voilà, mais on fait plein de choses. On écrit aussi des articles pour le site. On ne se nourrit plus. Je veux dire, on tient, à un moment donné, on tient cette entreprise sur nos épaules. On tient cette Coupe du Monde nos épaules. C'est lourd. À un moment, on a le droit aussi d'avoir des temps de faiblesse. On a le droit d'oublier un sujet parmi les 150 qu'on développe pendant la journée. Voilà. Oui, on a un petit moment de faiblesse. Mais écoute, Maxime, quand on dort 2 heures par jour, quand on voit pas ses gamins, quand on voit pas sa femme, quand on passe son temps au travail, oui, on peut avoir un petit moment de faiblesse.
C'est aussi la surprise de ces émissions. Parce que je pense aux gens qui sont excédés par nos intros, qui se disent super pour la Coupe du Monde. Ils n'en font pas. Vous arrivez à la fin du deuxième sujet et vous avez à peu près l'équivalent d'une intro. Donc voilà, désolé. Désolé, on est content pour ceux qui...
C'est pas une intro.
On n'est pas loin de la outro, là.
Non, c'est un haut secours. Et si t'arrives pas à déceler, Maxime, à un moment donné, faudra pas s'étonner s'il y a un burn-out, Maxime. Faudra pas s'étonner et puis faudra rendre des comptes à l'inspection du travail. Voilà, c'est tout ce que je dis.
Bon, on va passer à la Pologne et... on va passer à l'équipe de France, surtout, encore une fois. Il y a un an et demi, la France jouait la Suisse en 8e de finale de la Coupe du Monde. Et je me souviens d'une émission que l'on avait faite la veille où on avait en substance dit C'est pas possible.
Doigt dans le nez.
Les doigts dans le nez, ça peut pas tomber là parce que ce serait pas sérieux, parce que voilà. Même si on avait quand même des doutes, parce que après le Portugal, ils avaient été sortis premiers du groupe, mais c'était pas génial. On n'était pas certains, mais quand même, on se disait qu'il devait y avoir une différence de niveau. Martin, on a un peu cette même impression-là, surtout quand on voit le match de la Pologne hier face à l'Argentine.
La Pologne, sur ce que j'ai vu depuis le début du tournoi, et là on enregistre l'émission pendant les matchs de la Belgique, etc. Mais sur les équipes qualifiées, je n'ai pas vu d'équipe plus faible que la Pologne depuis le début de la compétition. Ça devrait être une bonne nouvelle. Pour moi, ça ne l'est pas, parce que je suis l'équipe de France depuis suffisamment de temps maintenant pour commencer à connaître les ressorts qui l'animent. Et moi, je sais que cette équipe est plus à l'aise face à des gros que face à des petits, qu'elle s'est fait sortir face à la Suisse et que trois mois plus tard, elle tapait l'Espagne et la Belgique en finale du Final Four de la Ligue des Nations, qu'elle était très à l'aise face à l'Allemagne, qu'elle l'était beaucoup moins face à la Hongrie. Voilà, donc au dernier Euro. Donc, ce que je sais, c'est que moi, ce n'est pas le genre de match que cette équipe de France aime, tout simplement. Prenez même, mais alors ce ne sont pas les mêmes joueurs, mais prenez même 2014-2018, 2014 face au Nigeria. Nigeria qui à l'époque, alors Nigeria a déjà eu des grandes équipes, mais en 2014, ce n'était pas une grande équipe du Nigeria à la Coupe du Monde. L'équipe de France termine première de son groupe, elle affronte le Nigeria, mais c'est insoutenable. Et ça se termine dans la dernière demi-heure grâce à un bon Pogba et une bonne entrée de Griezmann, mais le match est pourri et tu sens que tu peux passer à la trappe. 4 ans plus tard, il joue l'Argentine de Messi. C'est la folie, c'est Messi, c'est l'Argentine. Résultat, on a quelque chose qui ressemble à un match référence. L'équipe de France n'aime pas les petites équipes dans ces matchs-là. Donc moi, Maxime, je flippe.
Alors, je sais pas si je flippe. Moi, il y a 4 ans, j'étais aussi très content que ce soit l'Argentine parce que, bon, après tout, il fallait savoir de quel bois je chauffais. Moi, j'ai quand même envie de penser que c'est une équipe qui a appris de ses victoires et ses échecs. L'année dernière, c'est un immense échec. Est-ce que les Bleus avaient pris la Suisse de haut? Je ne suis pas certain non plus. Mais en tout cas, peut-être qu'il n'y avait pas l'engagement.
Peut-être que Deschamps l'avait pris de haut.
Peut-être voilà, qu'il n'y avait pas l'engagement et l'inquiétude qu'il devrait y avoir pour un match à élimination directe. Parce qu'on le rappelle, un match à élimination directe, vous menez 3-1 à 10 minutes de la fin, ce n'est pas fini. Et il y a cette, évidemment, séance des tirs au but qui arrive, qui n'est pas toujours au profit de l'équipe la plus forte techniquement, qui est l'équipe de France. On sait tous les ressorts qu'il y a sur une séance de tir au but. On sait que la Pologne, justement, dès aujourd'hui, s'est entraînée au tir au but, que Szczęsny est plutôt chaud pour l'instant.
Ouais, entre Szczęsny et Lloris, là, on a un peu ce qui se fait de mieux, ce qui se fait de pire sur les séances de tir au but. Hein.
Et que ce que j'ai vu de la Pologne hier me fait penser que c'est une équipe qui peut rester longtemps sur son but. Alors, hier, ça a fini par casser. Mais j'ai l'impression que c'est une équipe qui n'aurait pas de mal à rester sur son but. Il y a la méfiance. On a eu les joueurs aujourd'hui, Randal Kolo Muani et Kingsley Coman, qui ont parlé du match et justement de l'inquiétude. Alors ça tournait toujours autour de Lewandowski. Coman qui a dit très justement Lewandowski, oui, je l'ai vu à l'entraînement, il est très fort, etc. Mais bon, il est à la fin des actions. Donc à nous de faire en sorte que le ballon n'arrive pas à lui et on n'aura pas de problème. Il a résumé un peu cette équipe de Pologne qui semble un peu beaucoup dépendante de ce qu'elle a dans les buts aujourd'hui et ce qu'elle a en pointe, c'est-à-dire Lewandowski et Szczęsny. Donc je suis pas hyper inquiet parce que j'ai envie de penser que la Suisse est passée par là et qu'ils ne feront pas deux fois la même erreur et qu'ils ne prendront pas de haut cette équipe et qu'encore une fois, si jamais par bonheur il y a 3-1 à 10 minutes de la fin, on ne se retrouvera pas dans la situation de Bucarest il y a un an et demi.
Et la vraie différence aussi avec la Suisse, c'est qu'à l'Euro 2020 ou 2021, l'équipe de France était ultra favorite, que tout le monde ne voyait qu'eux, qu'ils arrivaient avec le vent dans le dos, que Benzema venait d'arriver, enfin bref, tout était beau et tout était joli, et qu'ils se sont pris un gros taquet dans la tronche. Là, avant la compétition, c'était pas du tout la même dynamique, le même environnement autour de cette équipe de France. Donc peut-être qu'elle est un peu plus à l'abri d'un potentiel excès de confiance, même si les deux premiers matchs ont été très abouti et que je pense qu'à ce titre, le troisième match ne change rien dans la dynamique. C'est ce qu'on disait hier pour le débrief de France-Tunisie. Donc peut-être qu'il y a ce petit truc-là. Mais moi, je reste quand même persuadé qu'au fond d'elle, l'équipe de France préfère tout de même jouer des nations plus prestigieuses, oui, plus ouvertes aussi. Ça lui convient mieux. Ça convient mieux à cette équipe de France. La Pologne, j'ai peur qu'on tourne autour du pot et qu'on finisse par tomber dans le pot et qu'on ferme le couvercle sur notre tête. La métaphore n'était pas géniale, mais
Non, alors,
je suis parti
elle
là-dedans.
Était bien partie.
Ouais, mais
il y a eu une bascule où tu n'as pas trouvé le terme.
Ouais, j'ai pas trouvé le terme. J'y suis allé sur le couvercle, c'était pas terrible. Mais bon, vous voyez l'image, quoi.
Ouais. Non, mais c'est sûr. Mais en fait, c'est l'Argentine en 98. En 2018, n'était pas un match maîtrisé des Bleus. Au fond, c'est peut-être le match qui leur ressemble moins, mais il y avait ce besoin et cette envie d'être à la hauteur. Je pense qu'un type comme Mbappé était ultra motivé à l'idée de dire « je suis face à Messi, c'est l'Argentine », etc. Et c'est vrai que…
Je crois qu'il ne sera pas motivé face à Franco.
Si, mais je pense que le profil de la Pologne fait que tu peux passer de la motivation à l'agacement, en fait. Mmh. C'est-à-dire que si, comme tu dis, tu commences à tourner autour du pot et que ça ne va pas bien… Bah, ça peut être un adversaire chiant. Enfin, hier, le match face à l'Argentine, c'est vraiment une caricature. C'est-à-dire que ça reste sur le but. Et
ils n'ont pas un tir cadré, si ou...
Je ne sais plus, mais en tout cas, y a rien, il n'y a pas grand-chose. Et que c'est un schéma... Alors évidemment, les matchs ne se passent jamais comme on le prédit, mais c'est un schéma qui est imaginable sur un huitième de finale de Coupe du Monde, parce qu'encore une fois, un match nul et vous n'êtes pas éliminé. Et vous allez aux prolongations au tir au but. Donc je pense que l'équipe de France aura intérêt à faire le job sans se laisser aspirer. Enfin, ça va être un drôle de match pour les Bleus, qui sont une équipe qui accepte une forme de, qui est une équipe qui accepte une forme de déséquilibre. Mais jusqu'à quand, faudra voir.
En tout cas, dimanche, je pense qu'il y aura assez peu de doutes sur la formule utilisée par Deschamps. Oui. Ce sera la même que face à l'Australie, ce sera la même que face au Danemark. Voilà, ce sera une équipe offensive parce que je pense qu'il faut qu'elle le soit face à la Pologne et encore plus face à la Pologne que si ça avait été l'Argentine. Donc il y a assez peu de doutes là-dessus. Est-ce que ça suffira? Normalement, oui. Ça suffit.
Mais normalement, ça suffisait à Bucarest.
Voilà, je crois qu'on a tout dit. Sur cette bonne note d'espoir, on va vous laisser aller vous sauter par la fenêtre. Non, mais voilà.
Mais c'est toujours comme ça. C'est-à-dire que tu commences par l'inquiétude. Oui. Dans toute situation, c'est un truc, un ressort journalistique et humain. C'est-à-dire qu'au début, de loin, on se dit « Ah non, c'est dangereux », et puis tu as de l'espoir. Et puis après, tu retombes un peu dans l'inquiétude. Ah oui, mais quand même, attention à la Pologne. La réponse, de toute façon, ce sera dimanche, entre 16h et 18h, grosso modo. Et puis,
Maxime, bac plus 9 en psychologie. Hein.
Bac plus 9 en psychologie.
Tu prépares les plus grands champions.
Je prépare les plus grands champions.
Ouais, Tony Yoka, Teddy Riner, coach personnel.
Je pense que ce ne sera pas une bonne idée.
Ouais, je pense pas non plus. Parce que vu l'état dans lequel tu étais ce matin, parce que tu avais perdu ta carte bleue, le coaching mental, c'est pas pour toi.
C'est pas pour moi.
Non, pas pour toi du tout. On se donne rendez-vous. Bah, pas demain, parce que demain, c'est tour du monde.
Conclusion du premier tour, tour du monde avec
Cyril Morin, ce bon vieux Cyril, qui nous fera un petit point, un petit...
Qui nous mijote une émission aux petits oignons, parce que Cyril n'est pas qu'un fin gourmet.
Non.
C'est un fin cuistot aussi.
Non, mais c'est pas un fin journaliste, en revanche.
Et là, c'est cuit. Et là, son émission, on ne pourrait pas l'appeler Cuisine du Monde, d'ailleurs.
C'est vrai, c'est pas faux. Il faudrait y penser. Donc, un petit
festin.
Un petit festin, et on reprendra les temps de passage des favoris à la Coupe du Monde. Enfin, voilà, il vous parlera de tout ça. Nous, on se donne rendez-vous samedi à J-1 de France-Pologne. Et puis après, toute la semaine pour débriefer la suite.
Et puis dimanche.
Ouais.
Et puis, on verra.
Lundi, sans doute, quand même.
Lundi, sans doute, quand même.
Quoi qu'il se passe, mais après. C'est toujours pareil.
Voilà. C'est simple. Hein. Si vous voulez qu'on continue, vous espérez que les Bleus gagnent.
Et ça, je pense que c'est ce que dira Deschamps dans le vestiaire. Avant que les mecs rentrent sur le terrain. Les gars, la Stream Team, vous aimez ça? Si vous voulez que ça continue, il faut gagner. Basta. C'est tout. Et ça suffira. Là, il n'y a pas besoin des discours de Pogba et tout ça. La Stream Team, ça suffit. Rendez-vous samedi. Ciao, ciao.
Salut.